Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a appelé ça une table ronde. C'est qu'on passe tout de suite aux deux conférenciers et que on discute après avec le grand public, parce que parfois vous allez avoir peut-être votre réponse dans la conférence d'après. Hein. Donc, je préfère qu'on continue et que éventuellement qu'on réponde à vos questions à la fin. D'accord? Donc, Afsane et Gaillard vont nous parler plus spécifiquement de ses activités de recherche au laboratoire.
Bonjour, je vais à travers deux exemples montrer l'utilité des cellules embryonnaires pour réparer des régions lésées chez des modèles animaux de maladie de Parkinson et dans un modèle de lésion du cortex motor. Donc ici, je vous ai représenté un cerveau. On voit le cortex qui est situé ici. Donc il faut savoir que la commande de tous nos mouvements volontaires provient de notre cerveau et plus particulièrement une région au niveau du cerveau qu'on appelle le cortex motor. Donc le cortex motor qui est situé, je vous ai schématisé ici en bleu, envoie des fibres jusqu'au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, ces fibres vont entrer en contact avec des motoneurones, donc ce sont des neurones de la moelle épinière. Et par l'intermédiaire de cellules donc, qui sont connectées à nos muscles, on peut avoir des contractions et des mouvements. Donc il faut savoir que le cortex moteur peut subir des lésions, des dommages tout au long de notre vie. Ici, je vous ai représenté les causes les plus fréquentes qu'on peut observer des lésions du cortex. Par exemple, à la suite des accidents de la circulation, on peut avoir des lésions au niveau du cortex moteur. À la suite des accidents vasculaires cérébraux ou dans certaines maladies neurodégénératives, donc les maladies du cerveau. Et les conséquences de ces lésions se manifestent par des paralysies, incapacité de mouvement volontaire ou des atrophies au niveau des muscles. Et il faut savoir qu'à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif pour réparer les différentes régions du cortex qui sont lésées. Donc ici, je vais vous présenter des travaux qu'on a obtenus chez la souris comme modèle animal. Donc ici, je vous ai représenté le cortex moteur. Donc en bleu, on voit des neurones, donc des cellules qui sont connectées par l'intermédiaire de ces fibres avec différentes régions du cerveau et le point le plus éloigné ici, c'est la moelle épinière. À la suite de la lésion, que ce soit mécanique ou chimique, on peut avoir une dégénérescence de ces fibres qui sont connectées avec différents de cerveaux. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il est possible, en utilisant des cellules embryonnaires, de récupérer, rétablir les fibres qui sont en dégénérescence à la suite des lésions? Il faut savoir qu'un des problèmes majeurs après la transplantation, c'est comment identifier les cellules transplantées et leurs projections des neurones de l'animal qui reçoit le transplant. Pour résoudre ce problème, on a utilisé des souris qui contiennent une protéine fluorescente dans leurs cellules. C'est un marqueur, une protéine qui existe de façon naturelle chez la méduse. Donc, cette protéine a été isolée et introduite dans les cellules de la souris. On obtient des souris vertes. Donc, l'intérêt pour nous, c'est que ça nous permet, en prélevant une partie du cerveau de ces souris et les transplanter chez des souris adultes, de visualiser l'emplacement du transplant et surtout voir si ces cellules transplantées sont capables de régénérer ou remplacer les circuits qui sont en dégénérescence. Donc, le protocole qu'on a utilisé ici, donc ici, c'est la procédure de transplantation que je vous ai schématisée. Donc, on va prélever une région au niveau du cerveau des embryons de souris vertes qui va donner naissance au futur cortex moteur. Chez des animaux adultes, on va faire une lésion par aspiration d'une partie du cortex moteur et les fragments qu'on a prélevés ici, on va les placer dans la cavité lésionnelle. Et on va attendre plusieurs mois et par la suite, on va étudier le développement des cellules transplantées et voir est-ce qu'on peut récupérer les circuits qui étaient en dégénérescence par ces cellules embryonnaires. Donc ici, je vous ai présenté une coupe de cerveau. Donc, tout ce qui est marqué on verra ici, ce sont des fibres qui sont issues des cellules transplantées parce que le transplant provient de cellules de souris vertes. Donc l'intérêt pour nous, c'est qu'on peut suivre les prolongements de ces cellules, les axons, donc les fibres qui sont issues de ces neurones transplantés et voir est-ce que ces fibres sont capables d'aller se connecter de façon appropriée ou il y a des projections qui sont anormales. Donc ici, on est dans une région du cerveau qui est sous le cortex moteur, donc le cortex moteur est situé ici. Et on voit beaucoup de projections, donc les fibres ici dans cette région du cerveau. Il faut savoir que chez l'animal normal, cette région-là est connectée avec le cortex moteur. Donc les fibres qu'on observe ici sont de même type de projection qu'on observe chez l'animal normal. Donc je vous donne un autre exemple de cibles qui sont connectées avec ces axons des neurones transplantés, c'est la moelle épinière. Donc la moelle épinière, c'est le point le plus éloigné, le cible plus éloigné du cortex moteur. Et ici, on peut voir des fibres et des terminaisons au niveau de la moelle épinière. Donc, les neurones embryonnaires transplantés dans le cortex lésé de la souris sont capables d'envoyer des fibres de façon appropriée dans des régions qui sont normalement connectées avec le cortex moteur. Sans trop entrer dans les détails, une des caractéristiques des fibres qui vont quitter le transplant pour aller vers différentes régions du cerveau, c'est la myélinisation. Qu'est-ce que c'est que la myéline ? La myéline, ici, je vous ai schématisé, c'est une sorte de câble qui va isoler les nerfs. Donc, les nerfs sont schématisés ici en vert. Et leur propriété, c'est d'assurer le passage d'informations d'un point à l'autre du cerveau. Donc, quand il n'y a pas de myéline, normalement, les neurones ne vont pas fonctionner correctement. Donc, on voulait savoir, est-ce que les fibres qui sont formées après la transplantation sont myélinisées ou pas. Donc ici en vert, on voit les fibres qui proviennent des neurones transplantés et on a utilisé un marqueur, un produit qui va nous permettre de visualiser la myéline. Et on voit ici qu'une grande partie des axons des fibres qui ont quitté le transplant sont myélinisées. Donc ça nous donne des indications sur le fait que ces axons peuvent fonctionner correctement. Donc, ici, je vous ai schématisé. Donc, on peut dire que grâce à des cellules embryonnaires, on peut récupérer point par point, restaurer point par point les circuits qui sont lésés à la suite ici d'une lésion par aspiration au niveau du cortex. Donc, ces résultats, bien sûr, ont été obtenus chez la souris. Donc, il faut vraiment être prudente. Mais ces résultats peuvent ouvrir des nouvelles perspectives quant à l'utilisation des cellules embryonnaires pour restaurer des voies nerveuses qui sont endommagées chez l'adulte. Donc là, je vais vous donner l'exemple d'une autre application de ces cellules embryonnaires, cette fois dans un modèle animal de la maladie de Parkinson. Donc je ne vais pas trop rentrer en détail. Jean-Luc peut-être nous en dira un peu plus. Donc il faut savoir que la maladie de Parkinson, c'est une maladie du cerveau qui est liée à dégénérescence, donc la mort d'une population de neurones qu'on appelle des neurones dopaminergiques. Donc ici, je vous ai schématisé ces neurones dopaminergiques, ici en bleu. Donc ces neurones dopaminergiques, leur corps cellulaire est situé dans cette région-là, et par l'intermédiaire des fibres, ils vont aller se connecter à une autre région du cerveau, et dans cette région-là, on va avoir la libération de la dopamine. Donc la dopamine, c'est une substance qui est sécrétée par ces neurones-là, est libéré dans cette région-là. Il faut savoir que chez les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson, les troubles essentiellement de la motricité, donc par exemple les tremblements, sont dus à une diminution de taux de dopamine dans cette région-là. Donc la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut remplacer ces neurones qui sont dégénérés, qui sont morts dans la maladie de Parkinson par des cellules embryonnaires? Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de modèle animal et spontané de la maladie de Parkinson chez les animaux de laboratoire. Donc, on n'a pas des rats ou des souris qui ont la maladie de Parkinson. Mais par contre, on a des substances, des toxines qui peuvent nous permettre de provoquer la mort de ces neurones-là et obtenir des modèles qui miment certaines caractéristiques de la maladie de Parkinson. Donc, ici, je vous ai schématisé un cerveau. Donc, la région où se trouvent les neurones dopaminergiques ici. Et ces neurones, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, envoient des fibres vers une autre région du cerveau. Donc, on va injecter une toxine au niveau des corps cellulaires des neurones dopaminergiques. Et sur ces couples-là, on voit en marron, ce sont les neurones dopaminergiques qui sont visualisés. Ici, on est du côté intact parce que le produit a été injecté qu'au niveau d'une la moitié du cerveau. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une disparition des neurones dopaminergiques. Donc, le produit qu'on utilise va provoquer la mort des neurones dopaminergiques. Par contre, on n'a pas d'indication sur les symptômes provoqués par le produit qu'on a injecté. Pour voir les symptômes chez la souris qui reçoivent une injection d'un côté de ce produit-là se présentent sous forme de rotation. Les souris qui ont une lésion unilatérale d'un côté, sous l'effet d'injection de certaines substances, vont se mettre à tourner. Quand une souris tourne beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de neurones qui sont dégénérés. Donc on utilise ces tests de comportement pour voir le degré de dégénérescence de ces neurones dopaminergiques. Donc ici, je vous ai présenté une souris donc, qui a, entre guillemets, la maladie de Parkinson. Donc ici, vous voyez, la souris tourne. Donc on va mesurer le nombre de rotations effectuées par l'animal, ce qui va nous donner des indications sur le pourcentage de dégénérescence des neurones dopaminergiques après l'injection. Donc, sur ce modèle animal de la maladie de Parkinson, on essaie de transplanter donc les neurones embryonnaires qui sont prélevés dans une région du cerveau qui va donner naissance à des neurones dopaminergiques plus tardivement. Donc, on prend des cellules embryonnaires. La région qu'on sait qui va donner naissance à des neurones dopaminergiques est prélevée et transplantée dans la région lésée. Donc ici, vous avez le transplant. Donc en rouge, on voit les cellules dopaminergiques. Donc on vérifie que les cellules qu'on a transplantées vont se différencier en neurones dopaminergiques. Et ici, on voit les fibres. Donc ça correspond à ce parti-là. Donc les fibres qui partent des neurones transplantés pour aller se diriger vers cette région-là. Et là, on voit les fibres qui sont déjà arrivées au niveau de cette région-là. Donc, on voit que les cellules transplantées se différencient en neurones dopaminergiques. Donc, il manquait la dopamine dans cette région. Donc, on voulait savoir est-ce que les cellules embryonnaires peuvent remplacer les cellules qui sont dégénérées et est-ce que ces cellules sont capables de se différencier en neurones dopaminergiques. Ces neurones envoient des fibres donc en empruntant cette voie et vont se distribuer dans cette région-là. Donc, là, on n'a pas d'indication sur la fonctionnalité. On voit qu'une partie de la voie est restaurée, mais est-ce que c'est fonctionnel? Donc, pour vérifier la fonctionnalité de ces fibres, on va faire des tests de comportement, donc les tests de rotation. On connaît les déficits, les nombres de rotations chez les animaux après la lésion. Et les mêmes animaux, on va regarder après la transplantation, est-ce que le nombre de rotations est diminué? Si le nombre de rotations diminue, c'est-à-dire que la dégénérescence a diminué. Donc ici, je vous ai schématisé les nombres de rotations qu'on obtient chez une souris lésée. Et les mêmes souris, après la transplantation, on voit qu'il y a une diminution importante du nombre de rotations. D'autres indices qui peuvent nous permettre de mesurer la fonctionnalité de ce type d'approche chez des animaux qui miment le modèle animal de la maladie de Parkinson, c'est mesurer après la transplantation le taux de dopamine. Je vous ai dit que les symptômes sont associés du fait qu'il y a une diminution de dopamine dans une région du cerveau. Donc on va regarder chez une souris lésée le pourcentage de diminution de dopamine et chez une souris greffée, est-ce qu'il y a une augmentation de dopamine. Donc on voit ici en violet, c'est le taux de dopamine qui a été mesuré dans la région du cerveau qui reçoit les fibres dopaminergiques. On voit qu'après la lésion par rapport à une souris normale, il y a une diminution importante de taux de dopamine. Et après la transplantation, on voit qu'il y a une augmentation de taux de dopamine dans cette région-là. Donc, ces résultats, il faut être encore prudent, c'est comme pour le cortex. Donc, c'est des résultats qui sont obtenus chez des modèles animaux qui miment certaines maladies du cerveau. Mais malgré ça, cette potentialité de l'utilisation des cellules embryonnaires chez l'adulte est important du fait que jusqu'à maintenant, on pensait que les cellules embryonnaires transplantées chez l'adulte ne sont pas capables d'envoyer des projections à longue distance. Ces résultats vont ouvrir des perspectives quant à l'utilisation des cellules embryonnaires ou les cellules souches pour pouvoir restaurer les voies qui sont en dégénérescence dans des modèles animaux ici, des maladies que je vous ai présentées. Mais on espère un jour, dans plusieurs années, pouvoir utiliser ces approches-là pour essayer de réparer des circuits qui sont lésés chez des patients qui souffrent de ces maladies. Merci.
Merci, Afsané, d'avoir présenté tes travaux et d'avoir fait le maximum pour les rendre le plus vulgarisé possible.